Écrire pour ou contre? Témoigner ou imaginer? Comment conjuguer le réel, faire avec la réalité pour s'en défaire, la refaire? Débarquer l'anecdote pour embarquer le lecteur? Quel est le pouvoir de la fiction? Et si c'était vrai?
Pascal Paradou.
D'un livre à l'autre, M. Les Boum raconte des histoires de femmes, donne des nouvelles de son pays d'origine et interroge les mémoires. Son quatrième roman s'est vu décerner le prestigieux prix Amadou Kourouma lors du dernier salon du livre de Genève et elle est aujourd'hui notre invitée. Bonjour M. Les Boum.
Bonjour Pascal.
J'adore votre nom. Mon cœur fait boum, mais en même temps je me suis dit, petite fille, on a dû l'enquiquiner avec ce nom.
Non mais Boum c'est mon nom de d'épouse en fait, donc j'ai pas grandi avec ce nom là contrairement à mes enfants, donc je vois de quoi vous voulez parler et je vois ce qu'il a de...
Donc vous avez rencontré monsieur Boum et votre cœur a fait boum.
Et puis mon cœur a fait boum.
Très bien. En revanche, je sais que Emley n'est pas votre prénom d'origine.
Exact. Emley n'est pas mon prénom d'origine. Emley, c'est un nom en langue bassa et ça veut dire espérance, courage, foi. Et c'est un terme qui revient souvent au Cameroun pour se désigner quoi, comme entité, comme peuple. Et je pensais que si j'avais une fille, je l'appellerais Emley. Il se trouve que j'ai eu deux garçons. Donc quand j'ai commencé à écrire, je me suis gardé mon prénom pour moi.
Et c'est donc un prénom en langue bassa, c'est votre langue d'origine?
Non, c'est pas ma langue d'origine. Et ça fait partie des mille choses qui caractérisent le Cameroun. Ça a beau ne pas être ma langue d'origine, c'est quand même une langue que j'aime beaucoup. Et Emley, c'est un mot qui nous concerne tous.
Il y a 250 langues au Cameroun.
À peu près, il y a 250 langues au Cameroun. Il y a quelques langues principales, mais qui sont elles-mêmes redistribuées en petites langues, enfin petits groupes de langues. Et donc oui, ce qui fait un pays très très riche en termes de langue et de métaphores et d'images et voilà.
En vous interrogeant sur l'origine de votre nom, c'est un peu pour vous titiller
oui.
Comme ça, mais c'est aussi parce qu'il me semble que la question des origines, donc de la transmission, sont au cœur de votre travail d'écrivaine.
Oui, oui, jusqu'ici en tout cas c'est... quelque chose que j'explore, que je continue d'explorer, parce qu'à mon sens, cette question de la transmission des origines et de l'héritage sont au cœur des problématiques et des nœuds qui freinent mon pays aujourd'hui. Cette incapacité de faire lien est aussi dans cette question de la transmission. Alors oui, je l'explore.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse? La transmission familiale, parce qu'il en est question dans ce livre, Les jours viennent et passent, ou de la transmission historique?
Les deux sont liés. Les deux sont liés. C'est toute la problématique de ce livre, Les jours viennent et passent. En fait, c'est l'effondrement d'une famille, quelque part, que je suis pendant trois générations, qui sont des personnes bien, mais qui, de micro-rupture en rupture plus importante, finissent, en fait, par se déliter. Et génération après génération à se fragiliser. Et cette fragilité-là va de pair avec la fragilité du pays, finalement. La réalité historique ne peut pas être séparée des réalités intimes et personnelles. Les gens sont aussi le produit de l'histoire.
C'est vrai qu'en arrière-plan de votre roman, Les Boum, il y a l'histoire de l'indépendance du Cameroun, des assassinats, du massacre des Bamileke dans les années 60, du terrorisme aujourd'hui. Tous ces événements en fait, qui forgent les intimités.
Exact. Il est très difficile de... On ne peut pas ne pas être influencé ou forgé par ce qui se passe. Aujourd'hui, le Covid est une histoire. C'est une histoire avec un grand H qui est en train de s'inscrire. Il n'empêche qu'elle s'inscrit aussi en nous profondément, dans notre intimité d'hommes et de femmes. Et c'est la même chose pour ces histoires-là. Sauf qu'elles n'ont pas forcément bénéficié du même travail. Il n'y a pas eu un travail de mémoire, il n'y a pas eu un travail de justice, il n'y a pas eu de commémoration ou même un vrai travail historique. Alors, elles s'archivent autrement. L'histoire s'archive autrement. Elle s'archive dans la chair, dans la voix, dans la vie, dans les choix que les uns et les autres font.
Vivant en France aujourd'hui, Emily Boom, est-ce que vous êtes toujours relié au pays? J'ai l'impression.
Ah ben. Oui, alors oui, je suis... les moyens de communication modernes font qu'on peut se parler tous les jours, mais j'y vais plusieurs fois par an, j'y ai de la famille, des amis, je suis très très reliée.
Mais alors, qui a le plus besoin de livres, de littérature sur le Cameroun? Est-ce que c'est nous, Français, francophones, Belges, Québécois du Nord, qui avons besoin de comprendre et de ressentir ce pays, ou au contraire, les Camerounais sur lesquels, et c'est vous qui le dites, une chape de silence a été posée?
Moi, je pense que le Cameroun est mon public naturel, et que oui, ils ont absolument, j'espère, je souhaite ardemment que ce que j'écris soit mis à disposition au Cameroun, et j'y travaille. Le problème du livre, évidemment, c'est la logistique et les prix. Il est difficile de payer, pour un Camerounais moyen, de payer un prix à 22 euros ou à 18 euros. Et je travaille à ce que les livres soient mis à disposition sur place. Après, je pense aussi qu'il n'y a pas de limite à se donner. La littérature appartient à qui veut bien l'apprendre.
Les rituels magiques d'Awaya, le combat d'Anna pour tenter d'obtenir son émancipation, la liberté, cher mon conquise d'Abi, ou la douloureuse histoire de Tina dans les rangs de Boko Haram. Voilà en quatre traits le résumé de votre roman que l'on va découvrir aujourd'hui dans De Vive Voix. Et je rajoute ma touche avec une autre femme, Ami Yerewolo, elle gère. Sur RFI, nouveau titre de Ami Yerewolo, une des stars du rap malien. Je gère, c'est aussi ce que peuvent dire vos héroïnes, Emily Boom, dans Les jours viennent et passent, puisque tout commence à l'hôpital. Abby est au chevet de sa mère mourante, Anna, qui va raconter son histoire dans les derniers jours de sa vie. Elle se confie, elle va très très loin dans l'intimité d'ailleurs, parce que peut-être a-t-elle perdu pied avec la raison et la bienséance. Elle raconte des choses très très intimes, mais c'est plus que sa propre histoire, c'est aussi l'histoire d'une lignée qu'elle raconte et que vous racontez.
Exact. Anna est une femme, oui, en fin de vie et qui n'a jamais beaucoup parlé. qui est assez silencieuse et assez réservée sur elle-même. Elle est suffisamment intelligente et elle a suffisamment de recul sur sa vie pour comprendre le monde, mais elle communique peu, que ce soit avec son mari ou avec sa fille. Elle a rompu avec son passé parce qu'elle voulait être une autre femme, une femme éduquée. Et là, à la fin de sa vie, elle lâche prise, en fait. Les digues se rompent et tout d'un coup, elle est dans une parole qui est presque trop importante. Sa fille Abby n'est même pas sûre de pouvoir accueillir cette parole-là à ce moment, parce qu'elle aussi, elle traverse des moments difficiles. Mais Anna ne peut plus. La parole qui s'est restreinte pendant toute une vie coule comme un fleuve et elle raconte tout, oui. Elle raconte toute sa vie.
Sa vie débute dans les années 60 avec l'indépendance, avec la fin de colonisation. Anna est le fruit d'ailleurs de cette période parce qu'elle est élevée par les bonnes sœurs dont elle apprécie, goûte et imagine la propreté, la politesse. Elle les adore absolument. Ouais. Elle est assez occidentalisée et elle reste prise, malgré tout, dans la logique d'une société traditionnelle.
Oui, c'est-à-dire qu'elle est fourdoyée par le monde de ses bonnes sœurs, qui est tellement différente du sien. Elle a envie d'être comme ces femmes-là, pas dans le plan religieux, mais dans le plan de la modernité, de la propreté, de la connaissance, de la lecture, etc. Et elle fait tout, en fait, pour leur ressembler, jusqu'à ce que, petit à petit, elle remarque aussi qu'elles ne sont pas si parfaites que ça, qu'elle ait des désillusions. Et ces désillusions-là vont venir s'ajouter à, petit à petit, au fil de sa vie, les désillusions qui lui viendront de son mariage, qui lui viendront de la société, qui lui viendront de sa propre incapacité, finalement, à construire la vie dont elle aurait rêvé, et toutes les concessions qu'elle doit faire au fur et à mesure du chemin.
Mais vous ne la jugez jamais.
Non, c'est parce que...
Vous mettez toujours en place l'ambivalence du personnage, de tout individu, peut-être de tout humain d'ailleurs.
Bien sûr, il n'y a pas besoin d'apporter un jugement. Ce n'est ni bon ni mal, c'est pas une morale. C'est pas une question morale, c'est simplement la question de... C'est un trajet de vie. Il est difficile de porter un jugement péremptoire sur un trajet de vie. D'autant plus que Anna, c'est pas une mauvaise personne, entre guillemets. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle peut, mais qui a aussi ses propres lacunes et qui fait un tas d'erreurs qu'elle essaie de corriger. Voilà.
Mais il n'y a pas non plus le bon continent ou le mauvais continent, la bonne période ou la mauvaise période. Il n'y a pas les victimes et les bourreaux. Vous écrivez que le savoir occidental est élémentaire et despotique, mais qu'il propose un rêve qui est celui du confort, et que c'est peut-être pour cette raison-là qu'il est d'ailleurs universaliste, mais que l'Afrique, de son côté, imagine un monde plus complexe et plus complet, et qu'elle accepte le mystère. C'est-à-dire que vous semblez penché vers l'Afrique, votre personnage aussi, mais quand même les deux doivent pouvoir coexister.
Mais de toute façon, comment faire ? Ce serait un petit peu stupide de penser qu'on peut séparer comme ça les deux mondes. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il va falloir faire cohabiter les choses et il faut une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion qui se mène d'ailleurs dans plusieurs parties du monde. Il n'y a pas que l'Afrique. Cette capacité que nous avons de vivre ensemble sans nous trahir les uns les autres, c'est aussi ça qui est interrogé dans notre monde moderne. C'est aussi de ça qu'il s'agit quand on parle de singularité et des universalisme.
Mais vous faites un bilan de la colonisation sans en faire un procès au travers de ces femmes dans ce roman.
Oui, ça aussi, c'est pareil. C'est cette histoire-là, il nous faut vivre avec. Peut-être qu'il faudra en faire un procès. Peu importe ce qu'on en fera, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas la mettre de côté, parce que ce que ces personnages aussi sont, notamment Anna et lui, c'est aussi une génération post-coloniale qui a apporté énormément de rêves et d'espoir, et qui 60 ans plus tard s'aperçoit que voilà, les choses sont un peu parties en vrille. Maintenant, ça ne fait que 60 ans. Peut-être qu'on peut laisser le temps encore d'explorer les différents chemins qu'il y a à explorer. La construction d'une nation est un temps long.
Alors il y a Anna, la mère, qui tente de s'émanciper, mais la société quand même pèse sur destin. Elle découvre que son mari est polygame, oui. Elle découvre qu'elle est un peu l'instrument de son mari. Elle est obligée de se marier parce qu'elle est enceinte, alors qu'elle n'avait pas forcément choisi, même si elle aimait cet homme, enfin, etc., etc. On va pas tout raconter du livre. Et puis il y a aussi Abby, sa fille, qui elle semble plus libre, qui épouse un blanc, qui quitte le pays, mais est-elle plus heureuse ?
elle se cherche. Et la difficulté de, les difficultés de Anna se réverbèrent dans Abby. Parce que Abby grandit dans l'absence de sincérité, finalement, de sa mère. Et quand elle rentre dans le monde, elle sait beaucoup de choses. Elle a une sorte d'enveloppe, mais à l'intérieur de l'enveloppe, elle est relativement vide. Parce qu'elle ne sait pas de quoi elle est constituée. Son histoire familiale est faite de vide.
Alors il y a cette histoire de femme, cette mère, cette fille, mais il y a eu des grands-mères dont on évoque la mémoire. Et puis Abby va rompre la malédiction des mères qui meurent à la naissance et la malédiction des filles. Elle va avoir un garçon, Max. Donc là, tout s'arrête de ce point de vue, cette lignée féminine. Mais il y a un autre personnage qui arrive, qui est la petite amie de Max, Tina, qui va se retrouver dans l'enfer de Boko Haram. Mmh. Et c'est toute la deuxième partie du livre. J'ai l'impression que c'est un deuxième roman dans le roman.
Oui. En fait, tout se tient, mais simplement, ça se tient dans divers rythmes. C'est tout ce qui se passe avec Anna, Abby, Awaya, etc. Tous ces trajets de vie qui vont donner une nouvelle génération qui est celle de Tina. Qui est une génération qui ne peut pas forcément compter sur l'ancienne, même si elle ne l'intériorise pas de cette manière, même si elle n'en a pas forcément conscience. Lorsqu'elle va mal et qu'elle cherche des réponses, elle ne se tourne pas, comme ça pourrait être le cas naturellement pour des enfants, vers l'ancienne génération. Elle cherche des solutions qui lui ressemblent. Et ces solutions-là peuvent être complètement délétères, que ce soit de partir vers la Méditerranée, que ce soit de partir vers des fondamentalistes ou vers des idées un petit peu faciles. Et ces loyautés-là, l'ancienne génération ne les comprend pas.
Donc il y a une rupture entre les générations et la rupture du roman raconte cette rupture-là.
Exact. Il y a une rupture de confiance. Il y a un manque d'exemplarité, finalement, de la génération précédente qui fait que les nouveaux ne reviennent pas vers... Les jeunes ne reviennent pas vers eux. Ils cherchent ailleurs. Ils se mettent en route. C'est une forme de résistance aussi. C'est une résistance par le corps. Sauf que, il y a des prédations. Ils ne sont pas préparés à ce qui les attend.
Alors pour ce roman, Emily Boom, vous avez obtenu le prix Amadou Kourouma, qui a été créé en 2004, juste après la mort de cet écrivain ivoirien, de ce grand écrivain ivoirien, qui a eu pour particularité d'inventer une langue française imprégnée du malinké.
Qu'est-ce qu'un romancier se propose ? C'est de faire revivre un certain personnage. Et effectivement, quand un malinké parle le français classique, il peut pas le faire, il peut pas ressortir, puisqu'il a une façon d'aborder, une façon de dire, il a une façon de penser qui est absolument différente. Donc, si vous voulez présenter un malinké, quand vous le présentez avec le français classique, il perd une très très importante partie de sa dimension, de sa réalité. Donc, si vous voulez vouloir être vrai, vous impose déjà d'adopter la langue de la personne. C'est de transposer, ce n'est pas... On ne traduit pas ces langues, on le transpose, parce que le traduire d'ailleurs n'aurait pas de sens. C'est d'essayer de voir comment, je crois, que dans toute langue, il y a une façon d'aborder, une façon de dire, et les choses se succèdent d'une certaine façon. Il y a un certain rythme, et ce rythme qu'il faut donner pour que le personnage ait toute sa dimension, et que le milieu qu'on représente soit représenté dans toute sa réalité.
Magnifique récompense que ce prix Kourouma pour votre roman Emily Boom. Magnifique parole de la part de Kourouma. Vous en pensez quoi, ce qu'il dit?
Oui, absolument. Et c'est tout le travail de sa vie, en fait. C'est comment faire que ce qu'il écrivait en français résonne comme il avait pensé à malinké. C'est quand même extrêmement important comme travail. C'est la particularité de Kourouma, en fait, ce qui fait de son écriture quelque chose de très particulier. Il a toujours réclamé.
Mais que diriez-vous de votre écriture? Est-ce que vous avez le sentiment d'écrire en français classique, comme il le dit, ou un français très légèrement transposé, métissé, mélangé d'un univers camerounais?
Je sais pas, je pense que mon français, le français que j'écris est habité aussi par toutes les autres langues que je parle. Il est habité aussi par...
Vous en parlez beaucoup ?
Quelques-unes qui viennent du Cameroun. Et qui et aussi par ma... C'est moins une... Est-ce que c'est classique ou pas classique, une tonalité c'est habité par une forme de tonalité. Et oui, je n'essaye pas de transposer des langues, je parle la mienne en essayant de la prêter à mes personnages et à ce qu'il y ait bien une différence en fonction de qui sont ces personnages, quel langage ils sont susceptibles de parler.
Oui, c'est vrai qu'ils ne parlent pas la même langue, si c'est Tina, si c'est Anna ou si c'est Abby, parce qu'on parle la langue de son époque aussi. J'ai noté par exemple le mot de « quat ».
Oui.
C'est le quartier?
Oui.
Ça vient d'où? C'est vous, c'est le quoi?
En fait, il y a un argot typique de Douala, qui est aussi une langue à part entière, qui est le pidgin de Douala, c'est aussi une langue à part entière, et j'ai repris certains mots quand je pouvais vraiment pas, faire autrement, et sans les traduire, en les contextualisant, je pense que le lecteur comprend bien.
Totalement. Voilà. Douala, dont vous faites un très beau portrait, d'ailleurs, oui. Comme une ville vorace et insatiable. Alors, j'ai trouvé aussi un autre mot, mais qu'on entend un peu en France, chippé.
Oui.
Ça, c'est très africain.
Voilà. C'est démonstration.
Démonstration. Et c'est un peu une insulte, non?
C'est tout. Il y a le type de mépris, il y a le type de complicité, il y a le type gentil, enfin, il y a toutes sortes de types, quoi. Le type, c'est assez intraduisible.
En tout cas, vous le faites très bien. Oui, mais ça ne me semble pas vraiment une insulte, comme
vous
le faites.
Non, mais ça pourrait.
Ça pourrait.
Croyez-moi, bon, dans certains contextes, ça pourrait. Là, tout de suite, non.
D'accord. Alors, il est beaucoup question pas tant de la langue, mais plutôt des livres dans ce roman, parce que Anna, la mère, aime passionnément lire et s'évader. Tant de monde offert en cadeau dans les livres, écrivez-vous, ou dit-elle. Est-ce que vous êtes un peu Anna ou est-ce que vous êtes un peu Abby?
Ah, je dois être un petit peu des deux. Et même un petit peu Tina aussi. Oui, non, je dois être un petit peu toutes ces femmes. Et c'est vrai que oui, je dirais ça sur la lecture. Je sais qu'on dit que les livres sont... Dans la société française, les livres sont considérés comme extrêmement importants, même si, pour une raison que j'ignore, les librairies sont devenues non essentielles par les temps qui courent. Mais oui, pour moi, le livre est un... Et la lecture et la littérature sont des éléments extrêmement importants de ma vie.
Vous parlez d'écrivain, vous faites un peu la critique, pas le procès, mais la critique de Frantz Fanon, parce qu'il ignore les femmes. Or, on aura compris que raconter des histoires de femmes est absolument important pour vous, Emily Boom. Et puis vous faites aussi l'éloge d'un écrivain et philosophe congolais dont j'avoue, je n'avais jamais entendu parler, mais j'ai honte, Valentin Yves Moudimbé.
Oui.
Pourquoi lui?
Parce que il a une manière de décrire l'Afrique, son pays, lui, son intimité, l'intimité des autres, avec une telle minutie, une telle sincérité. Il va tellement loin dans ce qui peut être dit que moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup rencontré dans la littérature africaine, en tout cas de cette époque-là, qui était plus une littérature de combat. Moudimbé est aussi dans le combat, mais il a une manière de dire l'intime qui est absolument fabuleuse pour moi.
Alors ce qui est magnifique, c'est que du coup j'ai commandé ce livre.
Ah bah génial.
Je me suis dit que finalement, voilà, c'est ça aussi la transmission, plus que le sang ou plus que la génétique, ou autant que le sang et la génétique, il y a les livres qui sont des objets de transmission absolument essentiels. Emily Boom, vous venez d'un pays où l'anglais et le français sont langues officielles, même si la cohabitation des populations n'est pas toujours très apaisée. Mais ici, on combat les anglicismes. Alors pour votre livre que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies fermées, je suggère de le commander et d'aller le chercher. Et je ne peux pas utiliser une autre expression, puisque c'est le temps de la chronique de Pierrette Crouzedora, qui connaît comme sa poche toutes les recommandations de la commission de terminologie de la DGLF-LF.
En bon terme.
Moi, je vous propose sans enthousiasme de garder ce mot.
Interprète.
Ça simplifiera les autres définitions.
Interprète.
Bonjour Pierrette Crouzedora.
Bonjour Pascal.
Alors, le virus est là, comme vous, et le e-commerce explose. Ça vous va, e-commerce?
Oui, mais c'est le bazar. On clique, mais on dit n'importe quoi. Drive, click and collect, anglicisme à foison, et en français, si l'on traduit littéralement, alors on écorche la syntaxe. Heureusement, la commission d'enrichissement a publié au journal officiel une belle collection de traductions de click and. À commencer par Click and Pay. Click et payer, c'est le système de paiement en ligne déclenché par la validation de la commande par le client. Et vous ne direz pas Click and Buy parce que c'est un nom de marque. Vous avez aussi le Click and Deliver. Cliquez, livrer, c'est la livraison de commandes à domicile. Cliquez, livrer. le participe passé s'impose du fait de deux sujets différents. Alors qu'en anglais, click and deliver utilise deux verbes à l'infinitif, cliquer et livrer, alors que les deux sujets du verbe sont différents.
Aïe, 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 aïe. On dit quoi ?
On dit cliquer, livrer, deux participes passés, et cliquer, payer, deux participes passés.
Mais en français ?
En français.
Toujours avec vous ?
Bien évidemment. Nous voulons être clairs et transparents. Alors maintenant, que veut dire click and collect ? Parce que ça...
On l'entend partout. Tous les jours, le moindre livre, le moindre bouquet de fleurs, le moindre objet, c'est du click and collect.
Effrayant. Alors, click, ça va.
Vous avez peur, hein ?
Non, mais collect, Pascal, qu'est-ce que ça veut dire, collect ?
C'est vrai, c'est une bonne question.
Alors, collecter est évidemment totalement inapproprié. Il ne faut pas traduire littéralement collecter. Collecter, c'est recueillir des choses dispersées en vue d'une action précise. Alors, à moins d'avoir cliqué frénétiquement dans différents sites et de parcourir Paris de long en large pour retirer une foule de commandes...
Ce qui est possible.
Oui, mais enfin quand même, c'est pas ce qu'on entend par click and collect. Vous ne direz pas click and collect, vous ne direz pas cliquer, collecter. Emporter, d'ailleurs, ne vaut guère mieux, car il faut bien retirer la marchandise, la commande, avant de l'emporter. Pour les experts du commerce, d'ailleurs, emporter évoque surtout payer emporté, qui existe, cash and carry. C'est la technique de vente en libre-service appliquée à la vente en gros. Les acheteurs viennent eux-mêmes enlever la marchandise à l'entrepôt du vendeur, payent comptant et se chargent de l'emballage et de l'acheminement. Alors, les traductions littérales du type click et collect ou cliquer et emporter sont des emprunts syntaxiques à l'anglais. Ils introduisent l'idée d'une simultanéité alors qu'en fait les opérations sont consécutives et différées dans le temps.
Donc on dit quoi pour ce click and collect qu'on a décidé d'évacuer, d'éradiquer du langage quotidien ?
Alors deux solutions, le cliquer retirer, c'est-à-dire le retrait en magasin ou le retrait auto.
Comme automobile ?
Retrait automobile. Abrégé en retrait auto. Mais de grâce, pas de drive fermier. Retrait à la ferme pour drive fermier. Et savez-vous comment les Québécois ont traduit click and collect? Eh bien, les Québécois, figurez-vous, ils ramassent leurs commandes, comme les Français ramassent les feuilles, les pommes de terre et les ordures. Et ils les collectent également. Donc, ils n'ont pas hésité. Click and collect, ramassage en magasin, collecte en magasin. Heureusement, les Canadiens, eux, ont suivi totalement les Français et n'ont pas suivi leurs petits cousins québécois.
Pourtant, ramasser les objets comme les feuilles mortes, ça pourrait être de saison. Merci Pierrette. Emily Boom, est-ce que les anglicismes vous choquent ?
Non, j'avoue que... Écoutez, moi je viens d'Afrique et je n'ai pas cette relation un petit peu hystérique au français, à la pureté de la langue. Je sais, je viens d'un endroit où le français est prend tellement de tournures différentes et se développe avec. Moi je trouve ça merveilleux que les langues se mélangent et se nourrissent et
et s'inventent.
Oui, voilà. Ces rencontres-là ne m'ont jamais dérangé.
Merci Emily Boom, les jours viennent et passe. Au passage, j'ai envie de dire que c'est un très beau titre.
Merci.
Qui dit quoi, la sérénité de la vie, l'inéluctabilité de la
vie. C'est une forme de proverbe, en fait, qui est presque la phrase préférée de ma mère. Et c'est une façon de dire, pour traduire, mais de façon un petit peu imparfaite, à chaque jour suffit sa peine. Mais ça va beaucoup plus loin qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est chaque jour se suffit à lui-même, en fait. Et comme de toute façon les choses passent, c'est à la fois être dans l'instant et accepter que les choses passent. Quoi.
Mais on entend l'épaisseur du temps
oui,
dans cette formule
exactement.
Et dans ce titre. Les jours viennent et passent. Roman édité chez Gallimard et vous avez donc eu le prix Amadou Kourouma pour ce quatrième roman. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. La semaine prochaine, Chantal Leroux sera à ce micro. Et d'ici là, l'émission est dans la case podcast de RFI.fr. À très vite.